rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Rebonsoir à toutes et à tous, c'est Le Énervé la suite et ce soir, comédie politique au programme en écho à une table ronde qui aura lieu au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris ce week-end dans le cadre de Le Monde Festival. Oui, une table ronde sur un sujet qui nous a inspiré avec Christophe Bourseiller. Le titre de la table ronde, c'est « Le rire est-il devenu plus politique ?» Alors on s'est demandé s'il est devenu, sa date de quand, et en cette période de renouvellement de la classe politique, va-t-on assister à une révolution de l'humour politique par Jupiter ? C'est donc le sujet du soir avec, dans le studio 621, par ordre d'alphabétique, des snipers. Cyril Heldin, bonsoir.
Bonsoir.
On attend votre retour sur Canal+, ce sera le samedi dans la case En Plus.
Samedi 30 septembre.
Face à vous, Bruno Gassiot, auteur humoriste ex-plume des Guignols de l'Info. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Il y a quelque chose dans la joue. Carl Zéro, documentariste, humoriste, chanteur.
Une opération des dents, je dénonce tout de suite.
Exactement. Ou non, il a été frappé.
Et on parle pas de l'angine.
Chanteur et grand directeur du festival de Femme Culte. Bonsoir à vous, Carl Zéro.
Bonsoir, monsieur Laurent.
Et puis Nicole Ferroni sera au téléphone avec nous. Nicole Ferroni, chroniqueuse mitraillette dans la matinale de France Inter. Le Énervé la suite, ça peut recommencer.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Mais tout commence par vous, Christophe Bourseiller.
Bah, écoutez, Laurent, je suis un petit peu embêté. Je vous le dis franchement, vous savez, Laurent, mon problème, je l'avoue, c'est que je suis un petit peu névrosé, peut-être, je sais pas. Mais le fait est que quand je vais voir un humoriste sur une scène de théâtre, par exemple, j'ai peur. Je suis étreint par une sorte d'angoisse un peu abyssale. Pourquoi les gens rient-ils ? Parce que c'est drôle ? Dois-je, moi aussi, m'esclaffer ? C'est le vrai problème que je me pose. Résultat, je pique des fous rires faux, à contre-temps, qui glace tout le monde. Oui, Laurent, le rire ne me fait pas rire. Alors, j'ai certes trouvé... C'est authentique, ce que je veux dire. Donc, j'ai certes trouvé naguère en tant qu'acteur... J'ai certes, pardon, tourné naguère en tant qu'acteur dans plusieurs films comiques, mais je ne serais pas allé les voir si je n'étais pas dedans. Vous voyez, je vous fais une confidence, là. Là, c'est la vérité. Par ailleurs, depuis que Jean-Michel Ribes a lancé au Théâtre du Rond-Point à Paris, je dis ça pour ceux qui ne vivent pas, le concept de rire de résistance, on a pris l'habitude de présenter les comiques comme de courageux fantassins de la démocratie, voire de simples journalistes d'opinion un peu affirmatifs. Moi, je veux bien. Mais quand certains comiques s'acharnent sur les hommes politiques avec une violence inouïe, sans la moindre limite, s'agit-il d'un rire de résistance à l'oppression ou de l'exaltation des plus bas instincts ? Oui, Laurent, quand certains fantaisistes désignent une tête de Turc,
et années 50.
Mes excuses d'ailleurs à la nation turque, hein, donc quand ils désignent une tête de Turc, quand ils font rire des Noirs, des Juifs ou des Arabes, ne s'adonnent-ils pas à une forme de lynchage ? On nous explique doctement que le rire est subversif. Et là, je succombe à l'hilarité, Laurent, car tous les régimes dictatoriaux abreuvent leur peuple de films ou de feuilletons comiques à l'eau de rose. Après le rire de résistance, après le rire du lynchage, le rire de soumission ? Le problème du rire, c'est qu'on y fourre ce qu'on veut, un peu comme dans un hachis parmentier, où, et là je pourrais être drôle, vous voyez, je ne le ferai pas, du journalisme drôle et impertinent aux bouffonneries racistes, n'y a-t-il qu'un pas. D'ailleurs, qu'est-ce que rire ? Pousser des gémissements orgasmiques et saccadés, ponctués d'une quinte de toux, le rire est politique. Il se déploie au café-théâtre, au cinéma, à la télévision, sur YouTube, dans les livres. Bref, il envahit la vie, comme une maladie peut-être. Tel Fantomas, il a plusieurs visages. Celui du dérapage abject et celui de la scène insolente. Alors Cyril Heldin, vous qui vous approchez au plus près des hommes politiques et puis souvent qui nous... Vous nous faites rire avec ces hommes politiques. Est-ce que vous avez déjà été tenté par le dérapage qui nous fait sombrer ?
Ah oui. Une fois, je me souviens, il y avait une conférence de presse de François Fillon, qui était alors Premier ministre, entouré de tous ses ministres à l'UMP. Tout le monde était très accessible, il y avait toutes les caméras. Et pendant une dizaine de secondes, je me suis dit, mais si là tu passes nu derrière, devant tout le monde, ça ferait parler. C'était au début. Et puis une fois, avec
Macron... Vous ne l'avez pas fait ?
Non, je ne l'ai pas fait, je me suis retenu. Et une autre fois, j'étais avec Macron, on était sur une petite navette qu'il conduisait au ministère de l'économie. Et puis, on jouait la bonne distance, justement. C'est un sujet qui revient en ce moment, la distance avec les médias à propos. Et d'ailleurs, on le verra dans la case En Plus, samedi prochain, cette scène. Puis je lui tends ma main, et puis il est un petit peu hésitant, puis il y a un sourire. Et là, je me suis dit, ah vas-y, saute-lui dessus. Prends-lui la bouche. Et puis on a coupé juste avant.
Et mais vous j'étais n'avez pas tenté. Embrassé Macron sur la bouche.
J'étais tenté.
Cette question du dérapage, ça vous a aussi traversé l'esprit, Carl Zéro, quand vous meniez vos entretiens à tu et à toi?
Tutoyant les hommes politiques?
Non, absolument jamais en fait. Mais vraiment jamais. Moi, je cherchais pas tellement à faire rire en fait dans l'entretien. Je cherchais à comprendre qui était cette personne que j'avais en face de moi et qui était pour moi une terre inconnue. Je connaissais pas beaucoup les politiques en réalité. Je suis arrivé là-dedans. Avant, je faisais des sketchs à nulle part ailleurs. Non, il n'y avait pas encore Bruno, mais il est arrivé pas longtemps après. Mmh. Si, il est arrivé. T'étais, bah oui, il y a
bah, quand même, est arrivé très
je suis
vite.
Con, ouais. Je suis gaga, non, mais pardon. Non, je confonds un peu les dates.
Nous sommes vieux.
Nous sommes un peu fatigués. Ouais. Mais donc je me retrouve là-dedans et je me retrouve en face d'hommes politiques et j'y comprenais absolument rien en réalité. Mmh, donc,
pareil.
Le but, c'était d'arriver à les rendre plus humains, les rendre un peu plus, enfin, différents de ce qu'on voyait d'habitude dans les émissions politiques, voilà.
C'est mais la quête est la même.
La recherche du dérapage ou de quoi que ce soit, non, pas du tout.
Bruno Gassio, ça vous a traversé l'esprit quand vous étiez à la tête des Guignols? C'était impossible.
Ben non, c'est une émission écrite, donc oui. Elle était pensée le matin.
Mais le dérapage rédigé. Peut être pensé, justement.
Oui, Rassillac dérapait de façon très pensée.
Mais sans chercher le dérapage, on est dans un délire. Donc tout d'un coup, on a quelque chose de très écrit, puis la situation, quand on est avec eux, l'emporte, et puis paf, on se laisse porter, on est tenté.
Alors, le programme possible. Du festival Le Monde, je lisais que finalement, il y a l'idée aujourd'hui que les gens qui feront profession de rire sont au fond des journalistes d'opinion. Vous êtes d'accord avec cette idée-là?
Alors, personnellement, j'ai toujours été absolument d'accord avec cette idée-là et je l'ai jamais vécu autrement. Alors, c'était plus difficile du temps de nulle part ailleurs parce que Gildas, c'était plus rural, comme disait Lucchini, et donc il comprenait pas tout. Mais dans un de second temps, quand il y a eu le vrai journal, c'était clair que c'était une émission d'information, même si elle était un peu différente. Et donc je voyais ça un peu, bon, les sketchs, c'était un peu comme des caricatures dans les journaux, quoi. C'est l'équivalent. Et les sujets ou les interviews, c'était clairement au premier degré. Il n'y avait pas de volonté humoristique. Après, si chemin faisant, il y avait un moment drôle, tant mieux, mais c'était pas le but.
En tout cas, du côté des Guignols, on a souvent pensé qu'il y avait une sorte de, peut-être pas de journalisme d'opinion, mais qu'il y avait une opinion qui était véritablement manifestée.
Bien sûr, il y avait une opinion, bien sûr.
Un journalisme satirique.
Oui, mais c'était un journal, c'était une parodie de journal. Donc dans les journaux télévisés aujourd'hui, il y a une opinion. Il y a une opinion à TF1, il y a une opinion à France 2, il y a une opinion sur les chaînes d'infos continues qui est à peu près la même. Et nous, on en avait une un peu différente à cette époque-là. Je me souviens, moi, quand j'ai pris le succès des Guignols en 91, 92, 93, 94 et 95, la télé était baladurienne. Hein ? Tout le monde était baladurien. Ah, on était les seuls à dire, ben, peut-être que Balladur, il va piquer la place de l'autre. Là. Et comme on était les seuls à dire une chose et qu'on enfonçait le clou tous les jours, on suscitait un certain intérêt. Mais c'était un positionnement qui était politique. Et quand on nous a accusé, bien sûr, oui.
Ben, c'est-à-dire que toute
la télé, tous les journaux étaient de droite. Ça, c'était pas grave qu'il y ait 5 minutes de gauche quelque part. C'était pas très, très grave.
Et quand on vous a accusé d'avoir fait élire, voilà, c'est ça.
Élire Chirac, c'est forcément une erreur, puisque c'était pas notre candidat.
Je peux imaginer. Mais pour autant, vous l'aviez rendu sympathique.
Ah, il était sympathique. Ah ouais. On n'a jamais rendu Chirac sympathique. Chirac est sympathique. Et Balladur était profondément antipathique.
On va revenir
sur... On fait que souligner les choses, nous. Hein. On peut pas créer un personnage.
Alors, on se souvient peut-être de ce que c'était les Guignols à cette époque?
Oh mon Dieu.
Extrait.
Bernard Kouchner. Il a connu la guerre au Kosovo. Il était là pendant les massacres au Rwanda. C'est lui qui a installé la démocratie en Bosnie, en plein conflit. Mais rien, rien ne le préparait à ça. Le siège du Parti Socialiste.
Répète ce que tu as dit sur ma femme, ordure!
Qui va garder les gosses?
Bernard Kouchner, cette fois... C'est pas sûr qu'il puisse faire quelque chose.
Alors, cette question qui revient.
Ben, du coup, il n'a pas fait Bruno Gassio. Le socialiste est mort.
Ouais. Exactement. Vous l'aviez déjà annoncé. En plus, vous avez écrit un livre là-dessus. Mmh. Vous l'aviez déjà annoncé à cette époque. Juste une question par rapport à ce que peut écrire, par exemple, François Lyonnais, qui est une sorte de théoricien de l'humour. Il dit « Les humoristes sont eux-mêmes la solution la plus facile, la solution à l'absence de débat, de critique, de réflexion politique. Ils fleurissent sur la décomposition des convictions et des idées. » Vous en pensez quoi, vous ?
Ont-ils des convictions et des idées, déjà, ce qu'on attaque ?
Certains en ont, de gauche comme de droite, d'ailleurs.
Oui, oui, je sais pas.
Je ne me suis jamais senti là-dedans pour répondre à la question. C'est encore une fois, Les Guignols étaient une émission écrite qui était marquée à gauche. Une espèce de gauche humaniste, un peu utopiste, parce qu'il faut taper large. Mais on n'était pas irresponsable. On n'était pas là, on fleurissait pas sur la pourriture du... On n'était jamais anti-parlementariste, on faisait vachement gaffe à ce qu'on disait. On s'est même pris la tête avec Karl par moment.
À quel sujet ?
Un jour, il avait tué Chirac quand il faisait ses émissions avec le morphing. Là, il avait.
J'ai été suspendu lamentablement pendant un mois.
Mais on l'a défendu en disant qu'on avait le droit, nous. J'aime pas le terme d'humoriste. Nous, on était des auteurs qui avaient l'élégance d'essayer de faire des choses plutôt légères pour dire ce qu'ils avaient à dire. Mais on a toujours défendu Karl parce qu'il a le droit à l'irresponsabilité. On n'est pas justement des hommes politiques porteurs d'un programme. On ne cherche pas à être élu. Donc on a le droit, par moment, d'être totalement irresponsable.
Mais comment vous expliquez qu'un artiste soit expulsé d'un programme ?
C'est des trucs qui arrivent, en fait. Je voulais dire, en fait, on avait un paratonnerre extraordinaire à l'époque qui était Alain Degreff.
Lescure et Degreff étaient des bons paratonnerres.
Alors, dans mon cas, c'était juste Degreff. Parce que Lescure, tous les six mois, il réclamait que je m'en aille, quoi.
Ils avaient un numéro de cirque, tous les deux. Les politiques téléphonaient plus à Lescure qu'à Degreff. Donc, Lescure disait à Degreff, va couvrir. Il y en a un qui couvrait, et puis l'autre qui disait aux politiques, oui, on l'a suspendu un mois, mais ils s'en foutaient.
Oui, mais alors du coup...
S'il écoute, il va m'appeler pour me dire « Mais non, t'es pas con, tu vas me fâcher avec des gens. »
Non, mais la réalité, c'est que c'est vrai et que Lescure... Lescure avait été nommé président assez rapidement suite au départ à l'évinçage de Rousselet. Et il résistait pas très très bien aux appels des politiques. Je te jure, il flippait. Et donc à chaque fois, j'étais viré. Et puis alors, il fallait que Degreff dise « Bon, je m'en vais aussi. » Alors du coup, je restais. Et puis alors Degreff restait. Et finalement, ça s'est calmé quand les politiques ont commencé à m'appeler « moi ». C'est-à-dire qu'il fallait que j'ai cette crédibilité au bout de 2-3 ans pour que les mecs appellent plus Lescure. Ils m'appelaient moi en disant « Oh, quand même, t'as été fort avec ton sketch. »
L'avantage des marionnettes, c'est que les politiques pouvaient pas appeler les marionnettes.
C'était un des rares avantages. 23h29
on avait plein
sur France Inter.
Déjà, mais ça passe très vite, Laurent.
Wild Thing, un titre de 1966 des Trogs, une programmation toujours sauvage de Jean-Baptiste Audibert.
Rendez-vous.
Qu'est-ce donc avez-vous ?
Laissez-moi, je vous prie.
C'est encore, dites-moi, quelle bizarrerie.
Laissez-moi là, vous disiez, courez vous cacher.
Mais on entend les gens au moins sans se fâcher.
Moi, je veux me fâcher, ne veux point entendre.
Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi, Camille, enfin, je suis tout des premiers.
Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers.
Sur France Inter.
Quelle séquence, Cyril Hanouna, Cyril Hanouna avec Emmanuel Macron avant qu'il ne devienne président. Rire avec Macron ou rire sous Macron, le rire 2017-2018 va-t-il ressembler à quoi? Ce pourrait être une des questions du NRV ce soir. Alors avant d'entrer dans le débat, je voudrais juste qu'on entende un extrait de la dernière chronique de Nicole Ferroni hier matin.
Boris était mais beau comme La République en marche, c'est-à-dire la petite barbiche soi-disant naturelle, mais vraiment taillée nickel. Le type, il est serveur, donc il donne une image proche du peuple, alors qu'en fait, c'était lui le patron, donc il tirait tous les cordons. Et puis, ces petites phrases un petit peu accrocheuses, vous voyez, un peu du type « Nicole, j'ai très envie de te rendre les casiers judiciaires de tes élus super vierges », c'est-à-dire des phrases qui donnent un petit peu l'espoir et dont j'avais l'espoir de le revoir plus longuement. Sauf que à la suite de notre entrevue, il me dit « Ah là là, Nicole, je serais bien restée plus longtemps, mais je dois ramener la voiture de mon pote, donc si tu veux, on mange ensemble demain », ce à quoi je lui dis ok. Et le lendemain, dans le SMS, au lieu de mettre le lieu du rendez-vous, il me met une excuse bidon. Il me dit « Ah là là, je viens de me réveiller, on remet ça à plus tard ». Sauf que plus tard, qu'est-ce qu'il fait? Il me reporte une troisième fois. Et donc du coup, il m'est arrivé avec ce Boris, ce qui arrive en ce moment à pas mal de gens avec le président, si on en croit sa cote de popularité, c'est que quand enfin il m'a fait une proposition sympa, à savoir une soirée afro-cubaine, Boris, hein, pas le président, ma réaction a été de dire « Oh là là, ça va, allez, merci pour le moment. »
Nicole Ferroni, vous êtes chez vous au téléphone? Vous êtes avec nous?
Oui, alors non, en fait, je suis même pas chez moi. Et figurez-vous, j'étais à une soirée qui est très raccord avec le thème d'aujourd'hui, ouais. Puisque je sors de la projection de Satire dans la campagne, un film qui parle justement d'humour et politique, un documentaire. Donc j'étais un peu avec vous avant même de l'être.
Avant même de l'être. Première question, Nicole Ferroni. Entre la campagne électorale et aujourd'hui les premiers mois de la gouvernance Macron, est-ce que vous avez l'impression que l'exercice de votre chronique hebdomadaire dans la matinale d'Inter a changé?
Oui, elle a changé parce que déjà bizarrement, je crois que j'ai moins la pression de peser sur le choix des gens puisque maintenant le choix est fait. Et ça, mine de rien, moi, ça m'allège la conscience. Ça c'est sûr. Ce qui était un petit peu difficile pour moi à gérer pendant la campagne. Et après, ce que ça me demande. Je dirais que ça me demande d'être plus vigilante, par contre, sur le contenu, puisque du coup, on parle moins des affaires, on parle moins sur des choses d'actualité chaude, et j'ai l'impression que, que du coup, tout le travail peut-être d'investigation que j'aime bien faire, peut être fait maintenant vraiment.
En off, Carzéo nous disait tout à l'heure qu'il avait l'impression que depuis Macron, tout avait changé, justement. À quel niveau ça a changé, d'après vous, Carzéo?
Je disais que ça serait compliqué aujourd'hui, donc je posais la question à Cyril. C'est compliqué parce que tout ce qu'on a connu, l'espèce de théâtre d'ombre parfois ou de véritable star qui existait, a été emporté. Il y a eu un tsunami extraordinaire. Et donc je me dis, ça doit être difficile. Je pensais à lui ou à Barthès. Ça doit être difficile d'exercer au quotidien pour parler de mecs qu'on ne connaît absolument pas et dont surtout tout le monde se branle. Donc c'est compliqué quoi d'arriver à faire rire sur des travers ou sur des affaires ou sur des trucs de gens dont on ne sait rien en réalité.
Nicole Ferroni?
Oui. Mais la remarque me fait beaucoup rire et c'est vrai. Non, oui, c'est vrai qu'en fait il nous manque les têtes d'affiche pour les prochains scénarios. Par contre, du coup, je trouve que ça permet quand même de plus se pencher sur le fond. Moi, ça m'oblige, du coup, peut-être aller voir plus les débats parlementaires, ce que je faisais moi avant, et à m'intéresser peut-être plus au contenu que juste me dire que Sarko il est petit ou que Fillon est un voleur. J'ai l'impression que du coup il faut aller.
Non, tu peux pas dire ça.
Voir le contenu.
Cyril Hanouna, vous avez le même problème?
Non, mais justement, j'étais sur le terrain hier pour l'émission où je suis allé voir, ils étaient à Aubervilliers, tous les nouveaux députés de La République En Marche. Hein, et l'enjeu, justement, c'est de se dire...
C'est de les reconnaître, déjà.
Oui, déjà, c'était ça.
Lui, c'est qui? Merde, cadre-le!
Alors déjà, c'était drôle. Et puis, c'est de déceler la future star. Alors, en même temps, on était plus sur le fond, parce que c'est ce qu'il revendique. Et la com était très, très, très contrôlée, puisqu'il y avait juste... Alors, c'était marrant, parce qu'il y avait une petite estrade où tout d'un coup mon révérend Ferrand est venu parler et puis il y a tout le monde qui voulait monter sur l'estrade pour exister, donc la situation était j'ai des députés et ils étaient tout contents.
Attirés par la caméra.
Voilà, attirés par la caméra.
Bruno Gassiot,
est-ce que ça fera marrer les gens?
Carl Zéro.
Écoute, ça,
ah bah ça, on les aura la semaine prochaine.
La situation est rigolote parce qu'au début, on est tenu vachement à distance et en partant, je suis dans un taxi. Alors je leur dis, tiens, viens te présenter, toi. Je les prenais un peu de haut comme ça. Ils arrivaient les uns après les autres, ils me donnaient leur CV. Moi, je remplace Jean-Marc Ayrault. C'était marrant. Bruno Gassio. Je remplace Devedjian.
Non, mais c'est pour rassurer Nicole Ferroni que j'aime beaucoup. Entre deux élections, que ce soit au Guignol ou n'importe où, on s'est toujours emmerdé un peu parce que une fois que l'élection est faite, on attend la suivante. Et le débat de fond aura lieu, et ne t'inquiète pas, dans 5 ans, ils seront tous très connus. Et ça vaudra le coup un an avant de commencer à regarder ce qui se passe, parce que on peut rire effectivement du fond, mais sur le vrai fond et là c'est une opinion que j'aurais probablement faite ou essayé d'imposer au Guignol si j'avais eu l'occasion, c'est que Macron mène la politique la plus ringarde qui soit, avec un air moderne comme on n'a jamais vu. La politique de Macron, c'est Schröder d'il y a 25 ans. Et ça va mener au même résultat. Normalement, ça va mener.
Sur quel niveau?
Au niveau économique, au niveau sociétal. Enfin, ce qu'il veut faire de la société française, c'est ce qu'il a l'air de marcher en Allemagne, parce qu'ils ont un taux de chômage très bas et un taux de pauvreté très élevé. Et il n'y a que deux façons de gérer aujourd'hui la productivité, c'est soit du chômage, soit de la précarité. Il n'y a que deux façons de le faire. En France, on a choisi le chômage depuis 25 ans. Les Allemands ont choisi la précarité. Remplacer l'un par l'autre est idiot. Ça manque considérablement d'imagination. Alors, de là à vous dire ce qu'il faudrait faire, je ne le sais pas.
Peut-être
plus que
Benoît Hamon avait plus d'imagination.
Mais Benoît Hamon avait énormément d'imagination, et les problèmes qu'il a soulevés et les solutions qu'il a soulevées sont des solutions très difficiles à mettre en place, mais c'est des solutions qu'il faut écouter parce que c'est l'avenir. Même Bill Gates y pense.
Mais elles n'ont pas prise.
Elles n'ont pas de prise encore, mais il faut enfoncer un clou. Mais ça, c'est de la politique, c'est plus d'humoriste. Et je voulais juste dire un truc à Nicole Ferroni aussi. Quand j'écoute...
Elle va pouvoir vous répondre, hein.
Oui, quand j'écoute Thomas Legrand le matin sur France Inter, parfois, il a des formulations qui se veulent rigolotes, qui se veulent légères. Et quand je vous écoute le matin, j'ai l'impression que le fond, parfois, prime sur la grosse déconne qui est censée être votre secteur d'activité.
On aime beaucoup Nicole Ferroni.
Nicole Ferroni.
C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est très juste comme remarque. Moi, c'est vrai que j'ai un problème actuellement et qui s'aggrave. C'est que j'ai l'impression des fois que je sors de mon cahier des charges de départ. Et des fois, faut que je m'auto-rectifie mon propre tir pour essayer de me rappeler qu'à la base, je suis censée être humoriste et que c'est aussi pour ça que j'ai été choisie. Je vois que je me laisse un peu aspirer par le fait de vouloir défendre du fond plus que du bouffon.
Depuis combien de temps vous avez cette impression? Depuis combien de temps vous avez l'impression d'avoir un changement comme de direction? Attendez, Nicole.
Oui.
Depuis combien de temps vous avez l'impression d'avoir changé comme ça cette vision de la chronique?
Depuis, je sais pas, c'est assez progressif, mais je dirais il y a au moins un an, quoi. Depuis au moins un an, je me dis, là, Nicole, ta chronique n'était pas drôle du tout.
Mais elle était intéressante, souvent.
De me rendre compte que j'avais fait une chronique humoristique sans humour.
Je crois, Nicole, que c'est absolument impossible, en fait, de faire ce métier sans petit à petit glisser de la parodie, de l'humour, vers une forme de sérieux, en réalité. On n'arrive pas à rester toujours au deuxième degré. Et parce qu'au début, on déconne, on est content, on devient des vedettes, hein, Bruno, on gagne des ronds, etc. Bon. Et puis après, on se dit, merde, quand même.
Oui, on gagne des ronds plus qu'on devient vedette, hein, je te le dis.
Bon,
Cyril Aldin, vous n'allez pas me faire pleurer, non plus.
Et puis, tu prends conscience...
Ah, je parle pas pour moi.
Tu prends conscience que ce que tu dis... touche les gens et a une importance et que tu peux pas dire n'importe quoi, et petit à petit tu réfléchis et tu commences à et tu finis presque par devenir toi-même une sorte de politique en disant ah non ça je peux pas lire parce que sans déconner, bon c'est vrai que lui c'est un con mais ce qu'il défend c'est pas mal, etc. Et
donc, la liberté va avec une responsabilité
extrêmement compliquée. C'est pour ça que ce rôle d'humoriste politique Et finalement, il peut pas durer très très longtemps parce qu'il faut une forme d'extrême jeunesse, de témérité et d'inconscience pour le faire, je crois.
Cyril Aldin?
Je suis plus jeune, donc c'est des atouts que j'espère entretenir. C'est vrai qu'il y a au départ, il y avait une vraie naïveté. Comme le disait Karl au début, je connaissais pas vraiment ce monde. Moi, je les aborde plutôt en tant que comédien. Donc c'est les personnalités qui m'ont vachement intéressé. Et après, suivant l'actualité tous les jours, évidemment, on rigole de la situation.
Un culot incroyable, parce que vous, Cyril, ce que vous faites, c'est d'aller vous jeter sur un homme politique à la sortie d'un meeting, ou derrière la tribune, de l'alpaguer.
Oui, de sortir derrière un poteau.
Oui, de sortir d'un poteau, de courir après Macron, après sa voiture. Enfin,
après, c'était l'inverse. Hein, j'ai l'impression que c'était après... Macron qui vous courait après, parce que c'était très facile.
Voilà. Il fallait qu'on en parle.
C'est vrai, c'était vraiment bizarre.
On vous a reproché.
C'est humain.
Cyril, on vous a jamais reproché. T'as jamais eu le sentiment que c'était impoli ce que tu faisais?
Impoli, le mot.
Mal poli d'aller alpaguer des gens par moment.
Non, je me dis.
Non, mais je pose la question très sincèrement.
Peut-être d'éducation, mais j'essayais d'avoir du savoir-vivre, de respecter la fonction, la situation, parce que comme on les voit sur du long terme, on croise un Hollande qu'on tutoie quasiment en 2010, et puis tout d'un coup il est président, on l'appelle Monsieur Président, et après il faut s'adapter, être dans l'écriture. Par exemple. Je me souviens le lendemain au salon de l'agriculture quand il y a eu l'affaire Gaillet, j'ai eu accès à lui tout de suite et je me suis dit je peux pas l'attaquer sur l'affaire Gaillet parce que c'est déplacé, il est quand même président et du coup je me suis dit, je peux pas non plus ne pas en parler vis-à-vis des téléspectateurs et j'ai pris le truc à mon compte. Après c'est une question de travail, d'écriture,
d'essayer de trouver un peu de style. Mais les humoristes sont mal polis. Les humoristes ne sont mais pas après, polis par définition, puisque les humoristes vont... Prenez un spectacle de Stéphane Guillon. Prenez un spectacle de Stéphane Guillon. Il va casser un certain nombre d'hommes politiques avec beaucoup de violence.
Rien
il
à
n'est
voir.
Pas poli.
Rien à voir.
C'est
un problème de cadre. Sur une scène, quelqu'un qui se donne en spectacle a écrit son spectacle. Il est dans un cadre donné. Les gens sont venus pour écouter un spectacle. Donc, ce qu'il dit, il le dit tous les soirs. Ce que fait Cyril, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Il faut qu'il s'adapte. Il arrive au salon d'agriculture. On lui parle de Hollande. Il y a une actu. Il peut pas en parler. Comment faire? Donc là, le dérapage est possible. Et on peut pas lui reprocher un dérapage à ce moment-là, puisqu'il est sur le vif, même si c'est penser, c'est pas forcément écrit. Parce que la réplique du président de la République, il peut pas l'écrire. Donc, ça n'a rien à voir. Guillon, s'il est mal poli sur une scène, il le choisit. Lui, il peut être mal poli sans le vouloir. C'est-à-dire aller alpaguer quelqu'un à un moment où ce quelqu'un ne voudrait pas être dérangé. Ça peut être mal poli, ça peut être dérangeant.
Et on est dans la situation, moi j'essaie souvent, j'écris beaucoup avant. J'écris beaucoup avant les questions, et puis après, eux ils m'emmènent où ils veulent. Ouais. Mais je suis quand même concentré sur l'angle que j'avais choisi. Donc et ben, après ça, c'est une question d'impro, de répartie, d'adaptation par rapport à la situation, mais je suis toujours dans le
risque. Le risque de dérapage et de malpolitesse, c'est beaucoup plus grand à ce moment-là que sur un spectacle.
C'est pour ça qu'il faut être très vigilant.
En fait, moi, je connais pas bien Cyril, mais de ce que je ressens de lui, c'est que c'est plus un comédien en réalité.
Et le comique né de la situation qu'il met en scène.
C'est-à-dire qu'en fait, les hommes politiques et les femmes politiques sont des comédiens aussi. Et donc, il va un petit peu, c'est au théâtre ce soir ce qu'il fait. Il va, il les provoque, ils le connaissent depuis le temps. Donc, en même temps, si tu veux, je crois qu'il joue de ça et que c'est pas vraiment de l'humour politique, c'est très difficile.
C'est une nouvelle forme d'humour politique. C'est une façon de travailler l'humour politique.
Il est extrêmement comédien, même dans la manière dont il est, sa gestuelle, sa façon de parler.
Tu peux pas dire ça. Je te trouve absolument étonnant.
Ça marche quand t'es pas connu au départ parce qu'il y a une surprise et puis après, eux en jouent, mais ça fonctionne donc dans l'intervalle.
Mais il y a toujours la surprise parce qu'il y a les caractères. Moi, ce que j'ai apprécié justement en tant que comédien, c'est la première qualité d'un comédien, c'est l'écoute. Et quelqu'un comme Macron est quelqu'un qui pose la situation.
Que tu en parles un peu beaucoup quand même.
Parce que les meilleures séquences, c'est avec lui.
Parce que justement, il y a plein de séquences où les politiques, ils ont leur service d'ordre, ils sont très rigides, ils coupent des gens comme Valls, des gens comme Nicolas Sarkozy, ils veulent pas parler, même s'ils ne connaissent. Je me souviens, quand il est revenu à Évreux pendant la COP21, il venait défendre Hervé Morin, je lui ai dit, monsieur Sarkozy, c'est courageux de venir ici pendant que Hollande bouffe des petits fours avec Obama et Poutine. Il s'est vexé. Je fais la même chose avec Macron. Et ben, on entame un dialogue et il sort gagnant. Donc
Et il sort gagnant.
Parce que finalement, Sarko, là, tout d'un coup, il coupe, il monte dans sa voiture. Il a l'air vexé. Si les questions que j'avais prévues après, c'est ben vous, c'est courageux, vous revenez sur le terrain. C'était dans son intérêt. Mais le fait de nous tenir à distance, ça les dessert. Ça m'a vachement marqué pendant la campagne parce que j'ai le sentiment que c'est ceux qui nous ont parlé. Qui ont gagné.
Peut-être que le fait justement qu'il vous accepte maintenant, c'est une façon de manipuler aussi le rendu de ce que tu vas faire.
Une dernière question juste avant de libérer. Cyril Hanouna, Cyril Hanouna. Juste une dernière question à Nicole Ferroni avant de la libérer. Nicole Ferroni, est-ce que vous avez peur qu'on vous reproche à un moment donné, comme on l'entend de temps en temps, pas pour vous, mais que ça puisse vous arriver, que vous fassiez la leçon?
Alors, j'ai pas peur qu'on me le reproche, mais j'ai peur de la faire vraiment et trop. C'est-à-dire, il y a des moments où je pense que moi-même, avec le recul, si je réécoute une de mes chroniques, je vais me dire non mais quelle moralisatrice. Enfin, je vais moi-même pas cautionner ce que je suis en train de faire. C'est plutôt ça. C'est plus ce regard que j'ai vis-à-vis de mon travail. Mais après, comme Cyril, je me pose aussi la question du coup de l'outil de qui je suis en tant qu'outil médiatique. C'est-à-dire quand il dit je suis pas dupe de pouvoir être d'un coup une vitrine pour quelqu'un ou un repoussoir. Moi aussi, il y a des moments je me pose la question. Je me dis je vois que mon attitude peut jouer en la faveur d'un candidat ou en la défaveur et ça me pose aussi cette question là. De responsabilité. C'est aussi ça qui peut être difficile pour moi ensuite à gérer.
Merci beaucoup Nicole Ferroni, on était absolument ravis de vous avoir, même si vous n'étiez pas vraiment avec nous au téléphone. Merci. Alors il y a une famille de chanteuses fleurs bleues et dans cette famille je demande le gardien des fleurs, c'est Freda qui s'y colle. Freda qui sera en concert le 5 octobre prochain au FGO Barbara à Paris.
Tête chenue, il veille au fond des cœurs, le gardien des fleurs. À l'ombre des fleurs, là, sous les cerisiers, au printemps, il demeure, le gardien des fleurs. Le gardien. Les pas des promeneurs, les restes de l'hiver, le retour des fleurs. Ombre passagère, on sait d'ici d'ailleurs qu'il est fort.
Pendant
23h49, le débat continue entre nos invités. On reparle du rire politique tout de suite.
Le nouveau rendez-vous.
Robert, bonjour.
Bonjour.
Robert, ça fait très longtemps que je t'ai pas vu. Moi, je connaissais un Robert Ménard fréquentable et je découvre, mais un être ignoble, quoi.
Tu lis trop la presse.
Ouais.
Sur France Inter.
Le rire est-il devenu plus politique? C'est la question qui sera posée ce week-end au Théâtre des Bouffes du Nord dans le cadre de Le Monde Festival. Mais la question que je voudrais vous poser, à vous, Cyril Eldin, Bruno Gassiot, Carl Zéro, c'est jusqu'où êtes-vous allé dans le rire? Bruno Gassiot, jusqu'où êtes-vous allé? Le point limite que vous avez atteint à un moment donné, est-ce qu'il y en a eu un d'après vous?
Encore une fois, Les Guignols, c'était une émission écrite. Donc
oui,
il n'y avait pas de point.
Des choses extrêmes,
mais on peut écrire des choses extrêmes.
Les choses vous avez lu Céline?
Je suis intéressé à l'individu. Ouais.
Non, mais c'est styliste, c'est pas un extrémiste dans le voyage, dans mon crédit.
c'est pas ses écrits les plus méchants.
Non, c'est pas ça, non, mais c'est justement. Ouais, je parle de cela, pas des autres.
Oui, t'as bien fait, ouais. Non, dans une émission écrite, la responsabilité, la liberté qu'on nous laissait allait avec une responsabilité qui était dans le cadre de la loi. qui encadre la liberté d'expression. Pas de diffamation, pas d'injure publique, pas d'incitation à la haine raciale, pas d'apologie du crime, de la pédophilie, de toutes ces choses-là, d'antisémitisme, tout ce qui est interdit par la loi. Or, tout ce qui n'est pas interdit, par définition, est autorisé. Donc tout le reste, ça ne pouvait pas être un dérapage.
Il n'y a pas une forme d'autocensure ?
Non, ce n'est pas de l'autocensure. C'est trouver le moyen de dire ce qu'on a à dire en restant dans le cadre de la loi.
Et est-ce que vous avez été censuré ?
Oui, une fois.
Sur quel sujet ?
Sur les élections de 1997, je crois, pour les législatives, où l'Escure nous avait dit « vous ne pouvez pas nier que vous avez une responsabilité dans les élections de 95 ». Là, il y a une dissolution, il y a des législatives, on ne les attendait pas. Donc, voilà, là, on va arrêter les guignols pendant 15 jours. Et j'ai dit à Pierre, oui, on arrête les guignols. Il m'a dit, ah bon, tu discutes pas? Je dis, non, je discute pas, on arrête les guignols. Il m'a dit, pendant 15 jours. Je dis, non, on arrête les guignols. Parce que si... Ouais. Les élections sont notre seule raison d'être, en fait. Si la veille des élections, on nous dit, ben non, alors ça marche pas. Donc on a discuté une bonne heure. À la fin de cette heure, on s'était mis d'accord sur le fait qu'on ne parlerait que de politique, mais sans sortir un seul homme politique. Et le soir même, on a sorti Jacques Chirac. Et mon téléphone, on avait des grands téléphones noirs où c'est inscrit président dessus, donc j'ai décroché. Je me suis fait engueuler, il m'a traité de tous les noms en disant « t'as pas de parole » et je lui ai répondu « mais le président de la République n'est pas un homme politique, il est le président de tous les Français, il n'a pas à s'impliquer dans une élection législative, donc on a le droit de le sortir ». Il a raccroché, très méchamment. Le lendemain, on a sorti en lucarne, dans les petites lucarnes, on a mis De Greff et lui, qui nous demandait de respecter un temps de parole. Enfin, l'Escure disait ça, la marionnette de l'Escure disait ça. Et De Greff lui disait 15. Il disait 15 quoi ? 15 secondes pour la droite, t'as parlé. Et là, mon téléphone, ça s'affiche, président. Donc je décroche. Et il m'a dit, c'était drôle, enculé. Et il a raccroché. C'est pour ça que j'ai pensé toujours pensé que c'était un très bon président.
En parlant donc de
bah, je vais le tenter à Bolloré, ça.
Ouais, bah oui, tenter.
Non, mais il n'y a pas de censure.
Mais il n'est pas président, Bolloré. Il n'est que actionnaire majoritaire. C'est vrai. Enfin, principal.
J'avais oublié.
Vous vous êtes auto-censuré, vous, Carl Zéro, dans votre exercice ?
Ben,
il a les yeux qui tournent.
J'ai fait en sorte que non, mais c'était un enfer. Moi, j'ai vécu. C'était infiniment moins. La vie est un long fleuve tranquille que pour Bruno du temps où il était au Guignol. C'était un enfer, un enfer. C'était, tant que c'était bon, l'Escure, il faut dire la vérité, il était carrément chiant, quoi. Mais De Greff nous protégeait. Et après, quand ça c'est devenu belle-mère. Ça a tourné au cauchemar absolu parce que ils voulaient voir tout avant, les sujets, les sketchs. Canal, Canal a été Canal jusqu'à De Greff, je crois. Et après, c'était plus Canal, c'était autre chose. On était dans déjà une sorte d'ersatz. Et donc, il n'y avait pas cette liberté de ton. Parce que, en fait, je crois que rétrospectivement, L'Escure, c'était un journaliste de France 2.
Mais car vous n'avez pas fait que Canal+ dans votre vie. Vous avez fait des journaux, vous avez fait des films, vous faites encore plein de choses aujourd'hui. Et est-ce que vous n'avez jamais été confronté à la tentation de finalement de dire si je vais très 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 loin, je vais faire du buzz, je vais faire parler de moi, je vais vendre mon film.
Parce que là, on est en train de parler d'humour politique.
D'humour politique.
Depuis, je fais pas beaucoup d'humour politique.
Vous avez fait beaucoup de films qui étaient basés sur l'humour politique.
Non, qui sont basés sur de l'humour, une façon amusante de raconter les choses, mais qui sont vraies. C'est pas des choses. On recherche pas le gag ou la vanne ou la chute ou le machin. Moi, j'ai le sentiment qu'il n'y avait pas du tout d'autocensure et qu'après il y avait une lutte pour ne justement pas être censuré.
Voilà. Alors je ne sais pas si le rire est devenu plus politique en 2017, mais en 2009 c'est déjà pas mal. Je vais vous faire réentendre Stéphane Guillon dans le 7-10 sur France Inter, quelques minutes avant l'arrivée de Dominique Strauss-Kahn le 17 février 2009.
Dans quelques minutes, Dominique Strauss-Kahn va pénétrer dans ce studio. C'est la première fois qu'il revient en France depuis son aventure avec une jeune Hongroise à lunettes, Piros Kanadji, responsable de la photocopieuse au FBI. Évidemment, des mesures exceptionnelles de sécurité ont été prises au sein de la rédaction. Pardon, « sein » est un mot que je n'ai pas le droit de prononcer aujourd'hui pour ne pas réveiller la bête. 5 seuils d'alerte sont prévus lors de cette matinale, le dernier étant l'évacuation pure et simple du personnel féminin d'Inter. Alors on va faire un effet de sirène. Voilà, à ce signal,
je vous demande de vous diriger toutes, sans exception, vers les ascenseurs. Il n'est pas question de se retrouver avec une flopée de congés maternité dans 7 mois.
Ça vous fait rire, c'est la
non, pas encore... du tout.
Bruno Gassiot.
J'avais jamais entendu, moi, mais c'est marrant.
C'est drôle.
Bruno Gassiot.
Bah, c'est surtout que l'autre arrive. Qui
c'est un visionnaire. Ouais.
Ça, dans la, dans la série Culot et Impolitesse, voilà. Alors oui, là, oui, oui. Oui, il va loin après, ouais.
Mais le culot, c'est tentant, mais moi, sur l'autocensure, ça s'arrête là, là où j'ai le sentiment de pouvoir blesser la personne ou de lui faire mal.
Donc tu leur parles pas de cul, par exemple.
Non, 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 j'évite.
À Macron, jamais.
Le pire. Ah oh, si, Macron tout le temps, mais je pense pas que ça le vexe.
Et qu'est-ce que tu peux lui dire tu lui dis quoi comme truc de cul à Macron?
Ben je peux pas te dire là tout de suite, mais
enfin merde, putain, merde.
On est dans le raffinement, il aime les lettres, justement. On sans passe les photos, par Molière, par Joe Dassin.
Si on osait la grosse question qui tue, Christophe Boursier, sur le rire de droite ou de gauche, est-ce que ça fonctionne encore? Est-ce que cette idée-là, c'est quelque chose qui est encore recevable aujourd'hui même, alors que, manifestement, au vu des élections, ce barrage a sauté? Ah. Bruno Gassiot.
Alors je vais faire une grosse généralité alors pour faire
allez-y,
simple.
Bah oui, vu la question, vous pouvez y aller.
Je pense que le rire, de toute façon, est de gauche, parce que le rire est censé aller chercher le plus faible pour l'aider face au plus fort. Quand le rire tape sur le plus faible, alors il est de droite et il est méchant.
Alors c'est vrai qu'à l'exception de rares extrémistes, je ne citerai pas, mais vous voyez très bien de qui je parlais, les humoristes qu'on a classés à droite, comme Thierry Leluron ou Pierre Desproges, en fait on se demande s'ils étaient véritablement à droite.
Non,
c'était plutôt
droite,
des anards. Des
de
droite,
oui, on est plutôt sur des anards que sur... Je suis de gauche quand je demande un service, de droite dès que je dois en rendre un, je change d'opinion toute la journée. Non, je n'ai pas le sentiment, c'est plus une situation... Je crois pas. Moi, en tout cas, je pense pas à ça. Justement, je me méfie énormément des opinions quand je suis sur le terrain avec eux, puisque j'ai une petite tendance tullius détritus à adopter un peu comme un caméléon l'opinion de
et
ceux
avec qui
je suis.
Et vous êtes un humoriste de droite?
Je sais pas, ça dépend. Non, aujourd'hui, je suis un humoriste de gauche.
Ah bah, ce soir, merci, parce que vous êtes sur France Inter. Quelle circonstance. Merci à vous tous. Merci Carl Zéro. L'actualité, c'est votre documentaire sur Claude François qui sera diffusé le 6 octobre sur Arte. Et puis, c'est aussi votre album qu'on entend derrière nous, Song for Moonlight Swim y otros tipos de ocupaciones chez Frémo et en digital chez Believe. Merci Bruno Gassiot. Le dernier essai, les 100 derniers jours du Parti Socialiste est toujours disponible aux éditions Les Liens qui libèrent.
Je n'ai pas d'actu, je suis venu juste pour vous faire plaisir.
Exactement,
moi,
et c'est pour ça qu'on vous remercie. Nicole Ferroni, bien sûr, on la retrouvera tous les mercredis sur France Inter à 8h55. Et Cyril Eldin. La nouvelle émission, Une case en plus, ça débute quand?
Samedi 30 septembre à 19h20 jusqu'à 20h17.
Sur Canal+.
Avec Christophe Boursier.
Ah, en plus, il fait partie du lot.
C'est l'incasable.
Tout s'explique. Tout s'explique.
Mais que s'est-il vraiment passé pendant 2 heures? Dans ce nouveau rendez-vous.
Divertissement populaire, sans plus.
C'est pas mal. C'est pas mal.
C'est très festif, hein, dans les films américains, ils se mettent tous à chanter.
Carl, un jour, il avait tué Chirac.
Je ne filme jamais la violence.
Sarko, il est petit, ou que Fillon est un voleur.
Non, tu peux pas dire ça.
Et oui, c'est passé tout ça, le énervé, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette semaine, mais on reste en contact, podcast, Facebook, Twitter avec le hashtag énervérfi. Merci à Stéphane Le Guenec et Juliette Medeviel pour la réalisation, préparation, c'est toujours Virginie Rouzic, Corinne Valente et Benoît Lagan, j'ai un problème avec les noms ce soir. Oui, on se retrouve lundi, 22h minuit, et on sera là avec ça.
C'est l'année la plus chaude de tous les temps.
Raphaël a rendez-vous avec Francis Huster et dans le énervé la suite, la PMA, jusqu'où on va, tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir, Christophe Boursier.
Bonsoir, Laurent.
Le bonsoir à tous et le bon week-end. À lundi.